marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Première règle du bon usage de l'histoire simple et brutale, savoir que le passé est là.
L'Irlande et sa frontière.
La nuit dernière, les protagonistes de la crise en Irlande du Nord avaient décidé d'arrêter les pendules. C'est vrai, officiellement, les négociations auraient dû se terminer à minuit, mais au regard de l'enjeu, la paix, après 30 années de violence, on pouvait bien attendre quelques heures de plus. Un accord de paix a été conclu, un accord historique, immédiatement célébré par Tony Blair.
L'idée qu'un côté a perdu en Irlande du Nord est balayée. L'essence de notre accord, c'est que nous gagnerons tous ou nous perdrons tous. C'est un accord qui sera bon pour tout le monde ou un échec pour tout le monde. Durant ces derniers jours, la force irrésistible de la volonté politique a fait que nous faisons table rase du passé et nous le changeons.
Signant en 1998 l'accord du Vendredi Saint avec le Premier ministre de la République d'Irlande, Tony Blair affirmait donc, vous avez entendu, « Nous changeons le passé ». Le passé, c'était le refus par l'Irlande de sa partition en 1921. L'accord de 1998 stipulait qu'elle retirerait de sa constitution la revendication de la réunification et que tout changement du statut de la partie nord de l'île, l'Ulster, ne se ferait qu'avec le consentement de la population de celle-ci. Le passé, c'était 30 ans de conflits violents, 25 morts en 70, 174 en 71, 467 en 72, etc. Et une frontière de 500 km militarisée aussi labyrinthique que la bataille était indémêlable. Et avant ces 30 ans d'embrasement, c'était du côté irlandais, des décennies de protectionnisme qui avaient déjà empêché la dite frontière de respirer. Le sentier de la paix fut difficile à tracer. Il avait fallu des deux côtés des efforts de plusieurs gouvernements successifs et aussi du côté de Washington, attentive à la minorité irlandaise aux États-Unis, une forte contribution de l'administration Clinton. Mais Bruxelles avait joué aussi un rôle, la Grande-Bretagne et l'Irlande étant entrées ensemble en 1973 dans la communauté européenne, les dirigeants de Dublin et de Londres avaient appris à s'y connaître. En outre, la conversion de l'Irlande au libre-échange en avait fait un petit tigre celtique et Belfast avait fini par trouver Dublin plus attractif que Londres. Depuis 1998, la frontière, autrefois hérissée de miradors, est devenue invisible. Cependant, peut-on faire table rase du passé comme le croyait Tony Blair en 1998 ? Le vote sur le Brexit est intervenu, dont on mesure maintenant les conséquences sur l'Irlande, où les vieilles identités ne se sont pas dissoutes dans le post-national comme on avait pu le croire. Le sentier de la paix ne s'était pas autant éloigné de la falaise qu'on le pensait.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Philippe Covey, bonjour.
Bonjour.
Il y a, comme à Caen, à Poitiers, des études irlandaises et vous en êtes le représentant éminent.
Merci.
Philippe Covey. J'ai employé le mot national et le mot post-national parce que souvent dans vos textes, vous les maniez et l'histoire de l'Irlande, elle est le résultat de deux projets nationaux antagonistes.
L'histoire de l'Irlande, c'est la confrontation entre un projet britannique, un projet national britannique qui est aussi impérialiste, et plus tard, un projet nationaliste irlandais qui cherche, lui, à s'affranchir de cette tutelle britannique. Et l'accord de 98 est une tentative de dépassement de cette confrontation entre deux logiques.
Avec le retour de boomerang du national qui intervient 30 ans après. Alors, le projet impérial britannique, c'est même un projet colonial, parce que inféodant l'Irlande, la monarchie Tudor va installer, fin 16e, début 17e siècle, une politique de plantation.
Voilà, alors la Grande-Bretagne lance, Londres lance toute une politique de colonisation par essentiellement des protestants, puis plus tard aussi par des anglicans, essentiellement la colonisation de la région nord de l'Irlande, donc de la province d'Ulster, ce qui est le début finalement de la de la difficile cohabitation entre les catholiques qui étaient déjà présents et ces protestants qui arrivent et qui prennent les terres et qui s'installent.
Juste faire surgir le nom de Derry, Londonderry. Nous sommes au moment de la Révolution anglaise, la glorieuse Révolution 1688. Il se trouve qu'à un moment, le roi d'Angleterre, Jacques II, est catholique. Il va être renversé. Le nouveau roi, Guillaume d'Orange, va lui mener la guerre, chercher à le chasser. Jacques II se retrouve en Irlande et Derry est assiégé par les partisans de Guillaume d'Orange, par les Stuarts.
Derry est un lieu extrêmement symbolique. Le siège de Derry est resté extrêmement fort dans la culture protestante. Cette période, dans son ensemble, est restée extrêmement forte puisque la bataille de la Boyne est aussi cette bataille qui est célébrée tous les ans le 12 juillet. Comme par ces protestants qui veulent se commémorer cette victoire de
ça, c'est une victoire de Guillaume d'Orange,
des orangistes. Donc Derry est un des lieux symboliques de cette confrontation entre protestantisme et catholicisme,
et on va le voir s'embraser ce lieu à intervalles réguliers. Alors ça, c'est le projet impérial britannique, et le projet national irlandais, il se déploie bien sûr au 19e siècle comme les grands projets nationaux de l'Europe.
Le projet national irlandais, il s'initie au 19e en opposition à la loi d'union qui a été votée et imposée en 1801. C'est-à-dire qu'à partir de 1801, l'Irlande a perdu toute autonomie institutionnelle. Tout est dirigé par Londres depuis Westminster. Et les nationalistes irlandais, essentiellement catholiques ou quasi exclusivement catholiques, décident de progressivement s'élever contre cette union de différentes manières. Et une des manières les plus fortes aura été le mouvement pour le Home Rule au 19e siècle, qui cherche à recréer un parlement à Dublin pour redonner une autonomie législative à Dublin.
Les gouvernants anglais vont finir par se convaincre que l'autonomie peut être, et tout en mettant le couteau sous la gorge des négociateurs irlandais, vont accorder à l'Irlande un statut de dominion. C'est un peu comme le Canada dans l'Empire, plus tard le Commonwealth. L'État libre d'Irlande. Le négociateur irlandais rentre de Londres juste au moment où, sans contact d'ailleurs avec ses camarades, parce que les Anglais avaient coupé les liaisons, il avait signé le traité.
Nous serons l'État libre d'Irlande, nous aurons notre propre gouvernement. Mais nous devons prêter serment d'allégeance à la couronne. La position du Nord sera réexaminée, mais pour l'instant, il continue à faire partie de l'Empire britannique. Ce traité est seulement un tremplin, Kitty. J'espère que le pays le verra comme ça.
Je t'assure que personne n'aurait pu faire mieux, Harry.
Oh, Mick! Mais ça, c'est l'abandon du Nord. La division du pays. Tu n'espères tout de même pas que nous allons accepter de prêter serment d'allégeance à la couronne?
Ils ne peuvent pas nous accorder la République, ça dépasse leur entendement. On aura un État libre d'Irlande, notre propre gouvernement. On s'en servira pour installer n'importe quelle république.
Et oui, des ambiguïtés. On peut sortir des solutions constructives. C'est ce que pense Malgiel Collins, qui va disparaître dans le grand affrontement entre Irlandais qui va suivre cette négociation fort discutée. Nous étions dans un film de Nigel Jordan. Alors là, on voit que la partition est vue comme une mutilation. Et Philippe Covey, la réunification va être du côté irlandais la grande passion politique du XXe siècle.
Alors, la division, la partition de l'Ulster, enfin d'une partie de l'Ulster sous la forme de l'Irlande du Nord, qui obtient elle-même son propre parlement, aura toujours été, dans une bonne partie du nationalisme, le problème majeur de cette solution de 1920-21. Et plus tard, quand l'Irish Free State se crée, puis change même de constitution en 1937, puis plus tard devient république, la question nord-irlandaise, la question de la réunification, est même au cœur de la Constitution, de ses articles 2 et 3 de 1937. Donc la réunification reste l'enjeu majeur, le projet majeur du nationalisme irlandais, non violent, constitutionnel, mais aussi violent, sous la forme donc de l'IRA et du républicanisme.
L'emportant sur Michael Collins, au final, au bout de beaucoup d'années, de Valera, le grand homme de l'État libre d'Irlande, Premier ministre à partir de 1932, va installer une politique de protectionnisme. Alors ça, c'est très important aussi pour l'histoire de la frontière qui est la nôtre aujourd'hui. C'est-à-dire que le but des Valera, c'est qu'il y ait de moins en moins de produits anglais qui pénètrent et sans doute vice-versa.
Il y a dans la culture nationaliste de Valera une opposition fondamentale à la Grande-Bretagne et donc tout ce qui est britannique est nécessairement mauvais. Le protectionnisme est donc une façon de limiter l'influence britannique, de limiter le contact avec l'économie britannique. Et effectivement, il se lance dans une politique protectionniste qui va durer jusque 1957, politique protectionniste très dure, dont il trouve l'inspiration dans le modèle économique allemand inventé par Friedrich List, par exemple. Mais cette politique, effectivement, ferme la frontière et la rend complètement hermétique, rendant aussi très difficile par là même la vie des frontaliers des deux côtés de la frontière, au nord comme au sud.
Alors on va installer De Valera à la présidence de la République, qui est parfaitement honorifique, où il recevra le général de Gaulle en 1969. À nouveau Premier ministre Lemas, lui, mène une politique de rapprochement. C'est important ça dans les années 60.
Alors il y a un gros tournant en 1957. Le protectionnisme a montré toutes ses limites. Il y a un rapport publié par un haut fonctionnaire, Whitaker, qui montre bien que les politiques protectionnistes ont été complètement contre-productives. Et donc Lemas prend le contre-pied total de cette politique, alors qu'il avait été lui-même son principal artisan auparavant, et ouvre les frontières et va même jusqu'à créer un accord de libre-échange avec la Grande-Bretagne qui prend effet à partir de 1965.
Mais c'est toujours comme ça, c'est dans les périodes où ça se desserre que tout d'un coup les revendications montent parce que les injustices apparaissent soudain criantes, et c'est le cas pour les catholiques minoritaires, mais de peu, en Ulster, en Irlande du Nord, qui lance une sorte de mouvement de droits civiques qui est assez proche de celui que connaît l'Afrique du Sud. Vous vous souvenez du rôle important de Derry, Londonderry, enfin la dénomination est différente selon qu'on est catholique et selon qu'on est unioniste. Nous sommes en 1969.
Les 6 comtés de l'Ulster qui forment l'Irlande du Nord sont partie intégrante de la Grande-Bretagne. Anglaise est l'allure des bâtiments publics, anglaise la fanfare de la police. Mais les catholiques d'Irlande du Nord, un tiers de la population, se considèrent comme des citoyens britanniques de seconde zone, presque comme des colonisés. Et en fait, l'Irlande connaît un système électoral moyenâgeux qui lie encore aujourd'hui le droit de vote à la propriété immobilière. Et les propriétaires sont en majorité protestants. Nulle part ces injustices, cette discrimination, ne sont ressenties aussi violemment qu'à Derry, la seconde ville de l'Ulster, 50 000 habitants tout au nord du pays. À Derry, les catholiques sont en majorité, 60%, mais ils n'ont que 3 représentants au conseil municipal contre 9 aux protestants. À Derry, il y a beaucoup de monde à la messe catholique du dimanche matin. Aller à la messe, c'est une façon d'affirmer sa conviction politique, c'est presque un acte de contestation.
Et les choses ayant bougé, mais n'ayant pas bougé assez vite, de la communion à l'insurrection, il n'y a pas si loin en tout cas, 69, Londonderry, grandes émeutes.
Alors 68-69, c'est un tournant extrêmement important. C'est le début du mouvement des droits civiques, dont certains leaders viennent de Derry. Ces droits civiques, c'est un nouveau type de contestation. Ce sont essentiellement des catholiques, même s'il y a des protestants dans le mouvement, qui disent à l'État nord-irlandais, on veut être traité de manière égalitaire, un homme, une voix, on veut le même accès au logement, le même accès à l'emploi, etc. Et ça montre un tournant chez cette minorité catholique d'Irlande du Nord. La question fondamentale n'est plus la question de la réunification, c'est la question du statut et de l'égalité à l'intérieur de l'Irlande du Nord. On demande à l'Irlande du Nord de faire des réformes internes pour que tout le monde soit des citoyens égaux au sein de l'Irlande du Nord.
Violence de plus en plus aggravée. Le gouvernement britannique, constatant que le gouvernement autonome d'Ulster, son parlement autonome de Stormont, n'y parviennent pas, cherche à rétablir l'ordre lui-même en envoyant l'armée. Ceci, c'est un hymne de la haute époque nationaliste du 19e siècle qui va être repris par l'IRA, qui va dorénavant souffler sur les braises et retrouver une grande activité, mais on l'entend aussi bien sur les stades de foot. Aye, upon the gallows,
the noble archery, by the vengeful tyrants stricken in their bloom. But they met him face to face with the courage of their race, and they went with sword unguarded to the doom. God save Ireland, said the heroes. God save Ireland, said they all. Whether on the scaffold high or the battlefield we die, oh, what matter when for Ireland they we fall.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
L'Irlande et sa frontière avec Philippe Covey. Vous êtes sensible quand même à la musique celtique, Philippe Covey. Et au gaélique, là c'était pas du gaélique, c'était Dieu sauve l'Irlande en anglais, et au gaélique aussi, j'imagine.
À titre personnel, le gaélique c'est une langue que je ne maîtrise pas du tout et que j'ai un mal fou à comprendre. En revanche, toute musique irlandaise me touche toujours, m'émeut toujours. Des deux côtés, je dois dire, quelle que soit l'orientation politique, il y a toujours dans cette musique une sorte de vitalité et d'enjeu politique justement qui la rend fascinante.
Mais vous ne maîtrisez pas le gaélique, c'est la langue officielle dans la constitution de 1937 que vous évoquiez. C'est dit explicitement, c'est d'ailleurs une des inquiétudes des habitants de l'Irlande du Nord au cas d'une réunification. Qu'est-ce qu'on fait avec le gaélique?
On va peut-être revenir plus tard à cette question, mais je ne suis pas parmi les analystes du nationalisme. Il y a toute une mouvance qui a un regard très critique sur les identités nationales. Et je ne suis pas de ceux qui croient que les identités nationales, justement, existent de manière objective. Je suis de ceux qui croient que l'identité nationale est construite. Et la langue est une des façons de construire une identité nationale.
Alors, comment s'ossifie-t-elle dans les années qui ont suivi 69? On ne va pas raconter par le menu cette époque extrêmement embrouillée, où Londres prend en main directement les affaires d'Irlande du Nord, avec un ministre des affaires d'Irlande du Nord, parfois à l'époque de Margaret Thatcher, le premier ministre de Londres qui s'occupe directement de la question. Non, j'aimerais qu'on suive le fil de la frontière. La frontière, elle passe, on verra comment elle sépare le Nord et le Sud, mais elle passe aussi à l'intérieur des villes du Nord, de Belfast et surtout de Derry.
La frontière irlandaise, c'est une de ses spécificités, elle n'a jamais été démarquée au sol. Les accords de 1920-21 n'ont pas permis cette démarcation au sol. Ce qui fait que très peu de gens savent exactement où elle passe. Les seuls qui savent vraiment, ce sont les gens qui y vivent. Et cette frontière passe dans des villages, passe dans des maisons, passe dans des cimetières, passe dans des champs. Elle est extrêmement difficile à percevoir. Elle fait parfois des méandres qui suivent tel cours d'eau, par exemple.
Et dans les villes, parce que pour comprendre l'inquiétude qui gagne de nouveau les habitants de l'Irlande, dans les villes, il y a eu un mur pendant cette époque d'occupation britannique. Et il y avait des postes frontières dans les villes.
Dans les villes ou juste à leur extérieur, c'est-à-dire une ville de, reprenons Derry par exemple, Derry qui est juste à la frontière. Vous sortez de Derry, vous rentrez immédiatement en territoire de la République d'Irlande. Et donc ces frontières étaient de plus en plus militarisées, de plus en plus sécurisées par l'armée britannique, par la police nord-irlandaise.
Mais parle aussi de la fonction de sécurité à l'intérieur de l'agglomération.
Alors, vous avez à l'intérieur de l'agglomération, dans les grandes villes, vous avez une démarcation de plus en plus forte entre les quartiers. C'est-à-dire que pour éviter les émeutes intercommunautaires, les autorités mettent en place des systèmes de peace lines, de peace walls, donc des murs de paix, on appelle ça des murs de paix, le nom est paradoxal. Il s'agit de faire en sorte que telle communauté et telle communauté ne se rencontrent pas, ne puissent pas se rencontrer, et donc on érige, notamment à Belfast et à Derry, des séparations physiques, matérielles, qui empêchent ce contact entre les deux communautés.
Alors, dont acte, et maintenant, on va en venir à la frontière entre l'Ulster, qui appartient au Royaume-Uni, et la République d'Irlande. La démarcation avait été faite après le traité de 21. Dans le cas de Derry, Londonderry, les catholiques disaient « nous y sommes majoritaires », c'était exceptionnel dans les villes d'Irlande du Nord, mais néanmoins, l'Ulster a gardé Derry, et puis aussi les villages environnants, comme une sorte de couronne, un interland.
L'Ulster, finalement, au moment du traité de 1921, les nationalistes républicains pensaient récupérer pas mal de territoires et ça ne s'est pas fait. Ce qui fait qu'au final, l'Irlande du Nord, telle qu'elle avait été décidée par Londres en six comtés nord-irlandais de l'Ulster, est restée cette Irlande du Nord de six comtés. Ce qui fait que vous gardez en Irlande du Nord une très forte minorité catholique nationaliste qui se trouve principalement concentrée le long de cette frontière. Ouais. Le nord-est de l'Irlande, autour de Belfast, étant plus majoritairement protestant.
Alors, vous dites, c'est pas tracé au sol. Il faut imaginer ce qu'il y a au sol. Il y a des forêts, il y a des marécages, il y a des lacs.
Il y a de tout. Il y a des petits villages, il y a des marécages, il y a des lacs, il y a des zones urbaines comme la ville de Derry. Il y a absolument de tout. C'est une frontière qui traverse des tas de paysages. Le paysage agricole est principalement un paysage de petits bocages, donc extrêmement difficile à maîtriser.
Nous sommes en 71 maintenant, c'est un reportage pour le journal télévisé français de Christian Bousquet. Donc les protagonistes, c'est l'armée britannique dont on rappelle qu'elle a été envoyée par Londres depuis maintenant 69. 2 ou 3 ans. L'armée irlandaise, l'armée de la République, et puis on a dit que l'IRA jetait du feu, il y a aussi l'IRA.
L'IRA vient de tirer. Sa cible, ce poste militaire à la frontière ouest de l'Ulster. Embusqués de l'autre côté de ce lac, en Irlande du Sud, les tireurs de l'IRA s'en prennent aux soldats britanniques, chargés de défoncer les routes reliant les deux Irlandes. Réplique immédiate des Britanniques, un ordre est lancé. Pointez vos pieds sur ce talus à 2 heures devant vous et essayez de repérer les 3 tireurs embusqués. Avant de tirer, assurez-vous que ce sont bien les hommes de l'IRA que vous visez et non pas les soldats de l'Irlande du Sud. Bonjour. Afin d'éviter que cet incident de frontière ne dégénère, l'armée du Sud interviendra rapidement pour neutraliser l'IRA. Les soldats du Sud vont d'ailleurs sortir des talus et se montrer aux Britanniques afin de ne pas être pris pour des tireurs embusqués. Est-ce la première fois que vous vous trouvez en face de l'armée du Sud? Personnellement, oui. Et ils n'ont jamais tiré sur des soldats britanniques? Non. Pouvez-vous me dire ce qu'ils font de l'autre côté de la frontière? Quelle est leur mission? Ils nettoient le secteur pour nous. Leur protection assurée, les soldats britanniques vont se remettre à défoncer cette route. Sur 240 routes reliant les deux Irlandes, 20 seulement sont gardées par des postes frontières. Il s'agit de rendre les autres inutilisables pour empêcher l'IRA de ravitailler le Nord en hommes et en armes.
Alors une solution toute sécuritaire où il faut défoncer les routes, on imagine que ça ne peut pas être une solution d'avenir, que c'est voué à l'échec.
Ça a été un échec total. D'abord, les routes qui étaient défoncées étaient reconstruites la plupart du temps par les gens qui habitaient localement, qui en avaient besoin. Et puis, l'IRA connaissait suffisamment bien le terrain pour pouvoir utiliser tel ruisseau ou tel champ pour faire passer ses armes et ses munitions de l'un ou l'autre côté de la frontière selon ses besoins. Donc ça a été un échec total.
On ne va pas suivre les événements militaires, on ne va pas non plus raconter comment des tentatives d'accord, des accords ont pu être signés progressivement, mais vous, attaché à la question du poste national et du national en même temps, Philippe Covey, vous accordez une relativement grande importance à l'évolution économique. Adhésion à la communauté européenne. Occasion de rencontre entre les ministres de Londres et les ministres de Dublin qui se connaissent à Bruxelles. Et puis, peu à peu, l'économie de la République d'Irlande qui change. On n'est plus du tout à l'époque protectionniste de Valera que vous évoquiez tout à l'heure.
Alors, l'Europe a créé un double changement. À partir de 73, les deux États, Londres et Dublin, sont membres de l'Europe. Ce qui fait qu'il y a d'abord un changement dans la relation entre les deux gouvernements qui prennent l'habitude de se rencontrer, de se parler et donc de négocier ensemble. L'autre changement, c'est un changement peut-être plus structurel, c'est-à-dire que l'économie change, notamment grâce beaucoup aux aides européennes. L'Irlande a été le principal bénéficiaire des aides européennes depuis l'histoire même de ces aides. Et l'économie, alors grâce à l'Europe, grâce aussi à des réformes lancées par Londres pour l'Irlande du Nord en particulier, tout cela fait évoluer les mentalités, fait évoluer les systèmes économiques, et progressivement il émerge dans les années 90, en particulier pendant les années 90, une volonté de trouver une solution. Il y a aussi des raisons militaires à cette volonté de trouver une solution. Les deux côtés ont besoin de sortir de cette longue guerre. Donc c'est dans les années 90 que se cristallise cette volonté de sortir de cette impasse qu'a été
parce que avant au 19e siècle, Belfast et l'Ulster, c'était des terres de la vieille révolution industrielle, et l'Irlande, c'était des terres agricoles. Là, dans les années que vous évoquez, Belfast se dit, tiens, Dublin devient attractif.
Alors, il y a ce phénomène qu'on appelle le tigre celtique, c'est-à-dire que c'est une transformation radicale de l'économie du Sud, de l'économie de la République, qui progresse économiquement de manière fulgurante. Et Belfast, à cette période-là, traverse, elle, plutôt, justement, la continuation de la crise économique post-1970, disons. Et économiquement, effectivement, Dublin devient le pôle principal de l'île, changeant par là même donc la donne, puisque ce n'est plus Belfast qui autrefois l'était, mais qui ne l'est plus.
Et puis la sécularisation, la déconfessionnalisation, je ne sais comment dire, joue un rôle. Et tout ça va aboutir, finalement, avec l'aide de l'administration Clinton, aux accords du Vendredi Saint. L'Irlande, la République, renonce à ses revendications territoriales sur l'Ulster. La population de l'Ulster décidera de son sort. Et la frontière va devenir peu à peu invisible. En combien de temps ?
Oh, très vite, à partir de 2007, il n'y a quasiment plus de postes militaires ou de postes de police. Le processus prend quelques années, et en quelques années, la frontière devient complètement ouverte et complètement normalisée.
Alors, à leur grande surprise, les habitants de la frontière sont maintenant l'objet de l'attention des journalistes de toute l'Europe, puisque si Brexit dure, il y a cette frontière, il faudra bien la reconstituer.
Chez les Bryson, on est éleveur de père en fils depuis un siècle. Kevin élève des bovins à viande des deux côtés de la frontière. Il a 270 vaches au Royaume-Uni, 130 en République d'Irlande. Pour l'instant, toutes ces vaches sont européennes. Mais Kevin se souvient de l'époque où la démarcation entre les deux Irlandes était lourdement gardée par des soldats britanniques.
Ici, c'était une zone fortifiée. Votre véhicule était arrêté et vous pouviez être retenu pendant une heure, deux heures.
La perspective du Brexit ravive de mauvais souvenirs chez Kevin Bryson. Le rétablissement de la frontière couperait son exploitation en deux.
Kevin croyait avoir des vaches européennes. Alors vous qui vous intéressez beaucoup aux théories sur le poste national, il y a des vaches européennes ?
Alors je ne sais pas s'il y a des vaches européennes. Ce qui est certain, c'est que l'ouverture de cette frontière a complètement transformé la vie économique, l'activité économique, notamment dans le secteur agricole, qui est maintenant organisé sur une échelle complètement pan-irlandaise. Il n'y a plus d'économie du Nord ou d'économie du Sud, l'ensemble est complètement intégré.
Oui, mais un élevage tranquille et le rejet de la violence, ça signifie pas nécessairement adhésion des vaches, ni même des hommes, à une identité post-nationale.
Alors c'est là qu'intervient le Brexit. Le Brexit révèle une chose, c'est que finalement ce processus de paix, cet accord de paix de 98, n'a pas réussi complètement à transformer les identités, à les faire passer justement à cette ère post-nationale telle qu'on avait pu l'imaginer. Il reste en Irlande du Nord, malgré tout, deux communautés dont le projet fondamental est contradictoire. Le projet nationaliste reste celui de la réunification, et d'ailleurs on utilise le Brexit comme argument majeur pour inciter à la réunification, alors que le projet unioniste reste celui d'une union avec la Grande-Bretagne, et on refuse à l'occasion du Brexit qu'il y ait un traitement complètement distinct entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Donc on voit bien que l'accord de paix de 98 n'a pas porté toutes ses promesses telles que les imaginait Tony Blair qu'on a entendu au début de l'émission.
Du passé, on ne fait pas tabou.
Voilà, il reste malheureusement des vestiges du passé qui sont encore extrêmement complexes à résoudre.
Oui, mais enfin, la marge de l'histoire a besoin de ces résurgences.
Sinon, il n'y aurait pas d'historien.
Merci à vous, Philippe Covey, qui n'aime pas se présenter comme historien, je le précise. L'émission était préparée par Franck Olivard avec le concours de Martin Penet. La réalisation, c'était Audrey Ripouille. La technique, Nicolas Cazot.